Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. L'enquête conduite ici par John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique, interroge les pratiques rituelles des Romains face à la mort. Nous savons que les rites funéraires duraient 8 jours et prenaient fin au 9e jour. Mais nous ignorons encore ce qui se passait vraiment à partir du moment où l'on arrivait à la nécropole. C'est pourquoi John Shedd s'appuie pour le découvrir sur les toutes dernières données de l'archéologie. Même si le schéma temporel des 8 jours était à peu près le même partout, même si l'idée était fondamentalement d'opérer une séparation entre le monde des morts et celui des vivants, chaque province romaine mettait en pratique ses propres coutumes, modes et traditions. Les fouilles nous ont appris que le sacrifice animal, généralement une truie, induisait le repas mortuaire pendant lequel les mets étaient partagés entre la déesse Cérès, le défunt et la famille. John Shedd nous a décrit les formes des différentes tombes et a examiné également ce qui se passait en cas d'inhumation et de crémation. Il a exposé les rites concernant les offrandes. Dans le cours que nous avons suivi hier, il a analysé des funérailles plus particulières, comme celle des jeunes enfants qui étaient enterrés de nuit à la lumière des torches afin que la maison ne soit pas souillée par la mort prématurée d'un enfant. Et personne n'était invité à ces funérailles. D'après Tacite, Tibère fit de même lorsque son fils Germanicus mourut. Mais le peuple de Rome, qui aimait le jeune homme, furieux contre les dieux, lapida alors leurs statues et renversa leurs autels. Il y avait aussi des morts dont on avait peur. Pour éviter qu'ils reviennent tourmenter les vivants, on les enterrait face contre terre pour qu'ils ne puissent s'enfuir et on clouait leurs cadavres dans la tombe. Parfois, quand on voulait dans une famille que le mort vous venge d'un ennemi, on l'enterrait avec des textes. Écoutez.
On peut se demander quand ces rites étaient effectués. À la maison, au moment de la mise en bière ou préparation du corps, ou bien lors de la mise en tombeau. En tout cas, il y avait un moment dans le déroulement des funérailles où ces clous, que l'on voit à Bologne par exemple, devaient être plantés et où le matériel funéraire était mis en place de la manière que nous avons vu. Un mot encore sur ces clous, cette défiction à l'aide de clous, d'éléments pointus. Dans les rites romains, nous connaissons 2 exemples, au moins, de manipulation d'aiguilles dans un contexte de protection ou de punition. Le dernier jour des parentalia de février, jour des morts habituels, un rite particulier était célébré d'après Ovide en l'honneur de Tacita Muta, qui serait une nymphe bavarde punie par Jupiter par l'arrachement de la langue. Je cite Ovide. « Voyez donc cette vieille chargée d'années assise au milieu d'un cercle de jeunes filles. Elle fait un sacrifice pour la déesse Tacita, la silencieuse, sans pour autant garder elle-même le silence. Avec 3 doigts, elle place 3 grains d'encens sous le seuil, nous sommes donc devant une maison, ce sont des rites privés, là où une petite souris s'effrayait un passage secret. Puis elle attache au plomb sombre des fils enchantés, elle tourne dans sa bouche 7 fèves noires. Après l'avoir enduite de poix, après l'avoir transpercée d'une aiguille de bronze, elle fait griller au feu une tête de mandole qu'elle a cousue. Elle verse aussi dessus quelques gouttes de vin. Ce qui reste de ce vin est bu par elle et par ses compagnes, par elle surtout. Nous avons enchaîné les langues hostiles et les bouches ennemies, dit-elle en se retirant. Vous aurez noté que dans ce sacrifice défensif, il y a partage de vin entre les célébrants et Tacita Muta, la muette silencieuse. Or, le petit mythe qu'Ovide raconte sur l'aventure de cette nymphe Lalla qui devint Tacita Muta met en évidence pourquoi ce partage est possible. Takita se trouve sur le chemin des enfers, son règne se trouve à la surface de la terre, près de ces trous qui communiquent avec les mânes et avec l'Amba. Elle sert donc d'intermédiaire pour lier, avec l'aide de Takita et sans doute des mânes, les bouches des ennemis potentiels. N'oublions pas non plus les clous magiques qui servent à transpercer les poupées à l'aide d'aiguilles, comme sur cette image, cette statuette qui est conservée au Louvre. Mais les rites, les actes de défiction ne sont pas toujours des pratiques effectuées au moment du funérail ou avant la mise en bière, ou bien des objets ou des lamelles inscrites enfouies dans la tombe. Ils peuvent se faire au grand jour. William Van Andringa et son équipe ont pu mettre en lumière une défiction tout à fait publique à Pompéi, dans l'enclos de Vesonius, qui appartient à une rangée d'enclos et de tombes de l'élite jouxtant la porte de Nuceri, de Nocera. Il s'agit d'un enclos d'à peu près 40 mètres avec un monument funéraire et 21 stèles anthropomorphes plantées au-dessus des tombes. Le propriétaire du musée et de l'enclos est Publius Vesonius Fulleros, affranchi de son état, et sévir augustal, ce qui permet de le situer dans la couche la plus en vue des affranchis de Pompéi, comme d'ailleurs l'emplacement de son tombeau dans cette partie plutôt huppée, comme nous dirions, de la nécropole le signale aussi. La dédicace du monument nous apprend qu'il l'a construit de son vivant pour lui et pour les siens, ainsi que pour sa patronne Vesonia, qu'il a sans doute affranchi, et enfin, troisième personne pour laquelle il l'a construit, pour son ami Marcus Orfelius Faustus, affranchi de Marcus. Devant et sous le monument se trouvent les stèles des défunts de la famille. Vesonia, très vraisemblablement la patronne de notre Phileros, se trouve devant le monument, à côté d'un Vesonius Proculus, qui est, d'après l'inscription, âgé de 13 ans. En fait, Henri Dudet, qui a fouillé la tombe, a pu prouver qu'il avait 7-8 ans. Donc il y avait sans doute une erreur dans l'inscription, ou alors on a évalué un peu autrement son âge. Dans une niche aménagée sous le monument, on découvre la stèle de Phileros lui-même. Celle-ci se trouve étrangement décentrée, et à sa gauche, on décèle une trace arasée, et de, trace de fracture de la deuxième stèle qui se trouvait là en principe et dont l'emplacement fut annexé par le seul Phileros. Il refit faire le tombeau. D'ailleurs, vous voyez Vesonius, Vesoni, il a, s'est approprié toute la surface dans la niche. Une deuxième inscription fixé sur le monument funéraire, explique ce qui s'est passé. Nous y lisons. Passant, arrête-toi un instant, si cela ne te dérange pas, et apprends ce dont tu dois te garder. Donc, toujours un de ces dialogues entre les défunts et des gens qui leur accordent un instant pour se faire faire la leçon sur la vie, sur la mort, ou sur des précautions, comme ici, qu'ils doivent prendre. Celui, compte-il utile, que j'avais espéré être un ami, donc Orfelius, hein, m'a intenté un procès, procurant de faux textes d'accusation. Au tribunal, grâce au Dieu et en vertu de mon innocence, je fus libéré de tout ennui. Que celui de nous deux qui a menti ne soit reçu ni par les pénates, ni par les dieux infernaux. Et vous pouvez constater que devant Innocentia, un gros trou figure dans la plaque qui ne servait pas, elle était fixée par quatre autres clous. Ici, il s'agit vraisemblablement, c'est l'interprétation de M. Elephant et de l'équipe de Van Andringa, que c'est un clou de défiction qui doit symboliser ce qui est en cause. Cette défiction, qui, ou une dévotion même, qui interdit à Faustus d'être reçu ni par les pénates, c'est-à-dire de son vivant dans le domicile familial de son ami, qu'il fréquentait manifestement familièrement, ni lors de sa mort Il ne devait être reçu par l'imam. S'il a menti, il le voue donc à une vie d'errance, de fantôme, si vous voulez, à cause de ce qu'il a fait. Et tout ça publiquement, n'est-ce pas? Tout le monde peut lire. L'enclouage de certains défunts semble donc attesté, dans le secret de la tombe, comme au grand jour, de façon réaliste, comme vous l'avez vu à Bologne, ou de façon symbolique, ici, dans cette histoire de procès entre amis, ce qui arrive. Ces rites étranges ferment la partie consacrée au rite des funérailles. Avant de passer au rite des commémorations, il est temps de jeter rapidement un regard sur les aménagements des nécropoles. Après avoir décrit toutes les traces des rites de crémation, d'inhumation et de fermeture des tombes, nous pouvons maintenant nous intéresser à l'environnement des sépultures, leur organisation, le marquage des tombes souterraines, les espaces rituels qui accompagnaient une sépulture ou un groupe de sépultures, les jardins, les salles à manger, triclinium, et les cuisines. Ces équipements sont tous directement liés au culte des morts. Les nécropoles sont organisées de façon diverse, selon l'importance de la communauté qui l'utilise et selon le contexte, urbain ou non. Évidemment, je vous donne une image ici très propre et policée de ces nécropoles. Il faut aussi voir que dans les grandes villes, il y avait certainement des miséreux qui squattaient les tombes qui n'étaient plus surveillées par les familles, et c'était aussi à moitié des habitations de miséreux. Ça, les poètes en parlent parfois, des clochards qui traînaient dans la nécropole et qui faisaient d'ailleurs commerce de magie et de défiction et de choses de ce genre. Les nécropoles, donc, à l'extérieur des villes, s'alignaient éventuellement le long d'une route, comme vous l'avez déjà vu à Pompéi, vous l'avez vu aussi à Sarsina, où la route passe au milieu. Parfois, cette voie, quand on est plus loin de la ville, se trouve à proximité d'une ferme. Ainsi, à Vaton, près de Falaise, vous avez une ferme et puis la route. Et ici, il y a la nécropole que nous avons rapidement analysée. À la sortie des villes, donc, les voies funéraires offrent l'image d'un habitat des morts, d'une ville des morts, une nécropolis au sens littéral. Parfois, cependant, c'est moins monumental et plus proche de cette image, comme dans cette nécropole découverte le long de la Via Triumphalis au Vatican, quand on a construit le parking du Vatican. Un mélange de tombes, parfois relativement monumentales. Vous avez la même chose ici à Classe, et vous voyez des petits monuments, etc., avec des trous qui sont simplement des tombes beaucoup plus modestes. Tout cela suivant les moyens des défunts. Généralement, l'espace des nécropoles, grandes et petites, est délimité. La forme la plus simple était une haie ou une clôture en bois, telle qu'on les trouve à Aquilée ou ici à Aix, par exemple. Vous voyez toutes ces tranchées qui symbolisent, qui parfois sont construites, sont maçonnées, mais dans d'autres cas, il y a des palissades ou des haies qui délimitent tout cela. Des enclos parfois simples, comme l'enclos ouvert de Mayence que nous avons déjà vu auparavant, qui a accueilli les urnes de plusieurs crémations. L'une, celle d'un homme d'un âge indéterminé, et parmi les ossements ont été retrouvés des dattes, des figues, des prunes et des noisettes. Un autre ossuaire appartenait à un enfant de sexe indéterminé, âgé de 1 à 2 ans, l'accompagnait des restes de porcs et d'oiseaux. Enfin, un peu devant l'enclos, l'ossuaire d'un homme âgé de 30 à 40 ans. Dans la campagne aussi, comme à Villelongue d'Aude, près de Fangeaux, où M. Passelac a retrouvé un grand enclos maçonné. Le site a accueilli dans un premier temps une fosse bûchée avant la construction de l'enclos maçonné, où fut enterrée à peu près au centre de l'enclos une urne en verre avec les ossements du défunt datant du début de notre ère. À proximité existait certainement une ou plusieurs fermes, et sans doute la nécropole était-elle plus grande, puisque à une centaine de mètres, on trouve un beau mausolée du IIe siècle de notre ère. Des enclos avec des busta, donc des tombes bûchées, sont aussi attestés en Italie, à Reggio Emilia, par exemple. Une nécropole du pays de Trévire, à proximité d'une villa, elle aussi, à Geblange-Nospelt, renfermait, elle aussi, un enclos marqué par plusieurs tombes. Certaines, donc, vous avez un grand enclos avec des enclos secondaires, vous avez des tombes beaucoup plus grandes, et puis ici, toute une série de tombes plus petites. Vous voyez ce genre de déposition très simple, enfin relativement simple, il y a beaucoup plus simple, mais un certain nombre d'objets à côté de tombes extrêmement riches comme celle-là, qui est sous l'un des tumulus, ou une tombe de dame qui, elle, a été fouillée suivant les règles de l'art et qui est tout aussi riche dans son matériel. Nous reviendrons à cette dame plus tard, parce que sa tombe est assez extraordinaire, début de notre ère. À Pompéi, dans la nécropole située devant la porte Nocera, les sépultures se trouvaient réunies dans des enclos, tels celui des Vézonies. De l'autre côté de la Méditerranée, à Pouput, Hammamet, en Tunisie, la grande nécropole fouillée par Aïcha Ben Abed et Marc Grisheimer était elle aussi structurée par des enclos. Tout est pratiquement maçonné à cet endroit. Les urnes sont enterrées dans ces caveaux et puis on met du plâtre et du ciment et de la maçonnerie par-dessus. Ce qui est rare, mais n'est pas du tout une exception. Et ces enclos, voyez, en voilà un, est progressivement rempli de dépositions au fur et à mesure que la génération du propriétaire de la tombe avance dans le temps. Mais je vous disais que ces caveaux maçonnés ne sont pas une exception, puisqu'on trouve, rappelez-vous, la même chose à Sarsina au cours de la première moitié du 1er siècle avant notre ère. Les inscriptions nous apprennent comment les espaces funéraires étaient répartis. À Sarsina, précisément, une donation faite par un certain Horatius Balbus aux alentours du début de notre ère, confère dans cette nécropole que nous avons vue, à ses citoyens du municipe de Sarsina et aux résidents, un terrain pour l'installation de tombes. À chacun, il accorde un lot d'environ 9 mètres carrés, en excluant les gladiateurs, ceux qui se seraient pendus ou auraient exercé une profession infâme. C'est apparemment de cette manière, par des donations ou par des achats de lots de terre collectifs ou achats par un bienfaiteur, que des espaces étaient accordés à un tel ou un tel père de famille, donc à sa famille, pour y déposer des ossuaires ou des cercueils. Ces espaces étaient dûment enregistrés, gérés et contrôlés à Rome et dans les cités romaines par les pontifes. Ailleurs, on ne le sait pas. La copie de lettre officielle qu'un certain Velius Fidus, sénateur de son état, avait gravée sur son tombeau nous informe sur la procédure et démontre qu'au IIe siècle de notre ère encore, les tombes faisaient l'objet d'une surveillance très stricte. Du moins, telle était la volonté des individus et des autorités. On ne sait pas dans quelle mesure ils y arrivaient. Velius écrit, en fait, au pontife Juventius Celsus, qui faisait cette année-là office de vice-président du collège des pontifes. Qu'est-ce qu'il demande ? Il demande l'autorisation de déplacer dans la tombe finie, dans un sarcophage de marbre, les corps de son épouse et de son fils, que dans l'urgence de leur mort, il avait d'abord déposé dans un sarcophage de terre cuite, dont il donne ensuite l'emplacement précis par rapport à d'autres monuments. C'est sur la Via Flaminia, au nord, la sortie nord de Rome, que ce caveau se trouvait. Il demande donc la déposition des corps dans un nouveau cadre, d'abord l'ouverture du sarcophage de terre cuite et la déposition dans une tombe qui maintenant est finie, dans un sarcophage de marbre, et il demande en même temps pour lui-même le droit de les joindre dans ce sarcophage le jour de sa mort. Et le vice-président accorde des pontifes qui agit à la place du grand pontife, l'empereur. Vous voyez aussi comment marchait cette administration, et Velius est un peu énervé parce que l'affranchi impérial qui gérait, en fait, lui, c'était lui le chef de bureau des pontifes, avait laissé traîner, et donc il a protesté, et c'est donc le vice-supérieur des pontifes lui-même qui résout l'affaire. Et il fait ça sous forme de décret. Vous voyez, il a dû consulter ses collègues, il est permis de le faire. Moi, Juventus Celsus, pro magister des pontifes, j'ai souscrit. Et donc, il met son sceau et il authentifie le texte. On constate donc une fois de plus que les nécropoles publiques étaient l'objet d'une surveillance relativement stricte qui joint la constatation faite pour la gestion des funérailles proprement dites d'après les règlements romains des pompes funèbres. C'est un aspect de l'Empire romain et de la religion romaine qu'il ne convient jamais d'oublier. En général, les Romains écrivaient pour résumer ou attester ce qu'ils avaient fait rituellement. Et ils écrivaient aussi pour réglementer, pour demander et accorder des autorisations. Cette large paperasse administrative, dont les papyrus d'Égypte et les copies épigraphiques qui, comme dans ce cas, ont survécu pour notre plus grand bonheur, donnent un indice. Et il ne faut jamais l'oublier, comme Claude Nicolet l'a toujours souligné. Cette paperasse introduite et ses demandes, cet attachement à toute cette réglementation, traduit également une implication personnelle importante des individus dans les activités cultuelles. Et il ne peut pas être simplement question de traditionnalisme sans conscience individuelle particulière. De toute façon, les données concernant les nécropoles, les tombes et le culte funéraire traduisent massivement l'attachement de la plupart des habitants du monde romain aux coutumes ritualistes de leurs ancêtres. Revenons aux aménagements des cimetières. S'il était facile d'identifier les mausolées ou les monuments connus, il était plus délicat de retrouver les tombes elles-mêmes, surtout si elles ne disposaient pas d'une stèle inscrite. Et même alors, certaines tombes pouvaient échapper. C'est pourquoi ce sont souvent des galets qui marquent à la surface du sol l'emplacement des tombes. Et parfois, il y a même, comme à Nîmes, une borne de limite de concession. Tout cela, ça existe. Et il ne faut pas oublier, n'est-ce pas, nous sommes habitués au marbre, à la pierre. Les anciens connaissaient aussi le bois. Et évidemment, il devait y avoir beaucoup de panneaux de bois avec des indications marquées dessus. Et évidemment, sauf en Égypte, ces morceaux de bois ont évidemment disparu. En même temps, beaucoup de tombes possédaient aussi non seulement les monuments, mais même des tombes qui n'étaient pas visibles en surface, possédaient des dispositifs rituels qui révélaient aussi leur présence. Je ne parle pas des triclinias ou des jardins, mais des conduits de libation qui dépassent souvent du sol. Et ces considérations nous conduisent au dernier aspect des rites de la mort, les commémorations, les traces de célébration et ce qui s'y rapporte. Nous avons évoqué il y a quelques semaines des commémorations annuelles des défunts, soit en fonction des anniversaires propres à chaque famille ou groupe, soit lors des fêtes annuelles des morts, à la fin février, lors des parentalia. Il y a plusieurs années, nous avons même analysé en détail les fêtes des morts dans mon séminaire. Je ne vais donc plus revenir aux témoignages des sources écrites et je me contente de renvoyer ceux que ces questions intéressent à ce que j'en ai écrit dans « Qu'en faire, c'est croire ». Regardons plutôt sur le terrain ce que nous disent les inscriptions funéraires et les tombes elles-mêmes. Les inscriptions funéraires évoquent sans ambiguïté qu'un culte a lieu auprès des tombes, comme cette inscription de Rome, dédiée par Luscia Tetis à son époux Cornelius Heortocus. Elle prescrit en effet que l'accès, la circulation autour du tombeau et l'accomplissement d'un sacrifice soient utilisés. Et vous verrez, c'est plus ou moins long, mais ce sont toujours les mêmes autorisations. L'accès, itus, ambitus, le contournement, sacrificium facere, faire un sacrifice, que ce soit permis, liceat. À Salone, en Dalmatie, donc nous allons dans les provinces, une inscription dont la fin est difficile à comprendre, en raison des abréviations, donne d'abord les dimensions d'une concession appartenant à un individu dont nous ne connaissons que les initiales. voyez ici, on donne finis loci, fin de l'endroit, de la place qui appartient à Quintus SC. C'est son nom de famille et son surnom. Nous ne le connaissons pas, ce monsieur, hélas. En tout cas, il a cela et il donne ensuite les dimensions de cette concession et elle ajoute que le chemin, la circulation, le contournement, l'accès à ce monument en vue de sacrifice sont autorisés à ceux qui en ont besoin. Ad quem locum iter ambitum actum aditum sacrifici causa quibus esse opportet, opporterit. Donc, il accède, il donne le chemin, le contournement, le déplacement et l'accès pour faire un sacrifice à ceux à qui doivent ou qui devront le faire. Donc, nous voyons qu'on ne donne pas seulement l'accès pour mettre des fleurs ou pour aller voir la tombe, mais aussi pour célébrer le culte. Il faut encore avoir l'autorisation, ce qui veut dire qu'on s'occupe des tombes et des rites qui s'y passent. Un autre règlement funéraire qui émane d'un collège de la Via Appia situé entre le 2e et le 3e millière sur un domaine appartenant à Madame Julia Monimet précise que le chemin, la circulation, l'accès et la circumambulation dans le lieu que ces personnes ont reçu en donation de Julia, soit permis pour faire des sacrifices, pour manger et banqueter. Donc c'est de nouveau la même chose, c'est un vrai collège de personnes, cette fois-ci, qui est là, et ils peuvent le faire. Il y a aussi des règlements sur le collège même, et vous avez la séquence ici pour sacrifici facere, vesci, partager de la viande et banqueter. Donc là, vous avez toute la description des rites funéraires qui sont en cause. Mais ces sacrifices se réfèrent-ils aux rites du culte annuel des morts ou bien s'agit-il uniquement de ceux des enterrements ? On pourrait en effet le supposer, puisqu'on sacrifiait et mangeait lors des enterrements. D'autres inscriptions permettent de comprendre qu'il s'agit également de sacrifices annuels, comme ceux que je décrivais déjà. Une inscription de Gaule Narbonnaise à Di annonce qu'une concession est consacrée au dieu Man de l'esclave public Caliste et à ceux de ses enfants et épouses, s'est marié deux fois, avec les deux tiers, je cite, d'un arépénis de vigne, avec le revenu desquels le défunt veut que chaque année on fasse une libation qui ne doit pas être inférieure à 15 sextaries de vin. Arépénis est un terme celtique, ancêtre de notre arpent, qui désigne un demi-jugère, soit 1265 mètres carrés, et la vigne en question, qui fait partie de la donation, aurait donc une surface d'environ 8 arts et demi. Le revenu de ce vignoble devait donc permettre d'offrir des libations équivalentes à au moins 15 sextaries, c'est-à-dire 7 litres et demi de vin par an. Une inscription, donc là, il s'agit d'un renouvellement des rites, c'est déjà clair. Une autre inscription de Rome nous livre des informations supplémentaires. Elle nous apprend que l'auteur de l'initiative, sans doute le père de famille qui fonde ce tombeau pour lui-même, les siens et ses affranchis, affecte le rendement d'une partie d'insula de Rome, c'est-à-dire d'un immeuble de rapport, au culte annuel qui doit être célébré auprès de la tombe. Ces sacrifices ont lieu 4 fois par an et sont offerts devant une large assistance. C'est ce que traduit, si je le trouve, l'expression... je regarde plutôt mon texte ici, « sacrificis factis celebrent », c'est-à-dire qu'ils viennent en foule l'honorer au moyen de sacrifices célébrés. Et il donne les dates lors de son anniversaire, lors des fêtes des roses et des violettes, deux fêtes à date variable qui tombent entre mars et mai, et enfin les parentalia du mois de mars. S'ajoute à ces cultes réguliers lors de toutes les calendes non et ides du mois, c'est-à-dire le premier, les 5 ou 7 ou les 13 et 15 de chaque mois, suivant le mois, l'allumage d'une lampe sur laquelle on place de l'incensum, sans doute de quelques grains d'encens. On retrouve ici l'utilisation des lampes à côté des tombes, comme celles que nous avons déjà souvent rencontrées. Elles sont donc invariablement liées au culte régulier dans les nécropoles. Une très belle inscription nous vient de Mycène, elle est récente. Il s'agit de la fondation d'un augustal, appartenant donc au deuxième niveau de l'élite de la cité, qui crée une fondation en vue de son culte funéraire. Il prescrit que, je traduis, chaque année, auprès de son jardin funéraire, le jour des parentalia, fin février, on donne dans ce locus, locus, un terme fréquent pour désigner une concession, ce n'est pas un bois sacré, c'est cette concession rituelle, pour 10 paires, donc on dépense, on donne pour 10 paires de lutteurs à chacun des vainqueurs 8 sesterces, à chacun des battus 4 sesterces, pour l'huile, pour s'enduire, n'est-ce pas, pour la lutte, 16 sesterces, pour les esclaves, les vernae, les esclaves de la maison qui s'occupent de faire fonctionner tout cela, 60 sesterces, parce qu'ils sont assez nombreux, pour le loueur de l'arène, 8 sesterces, pour orner le tombeau de violette, 16 sesterces, autant pour l'orner de rose, 16 sesterces. Le donateur veut aussi que sur ses restes soit versé chaque année une livre de parfum pour 34 sesterces et que les magistrats qui seront en fonction ce jour et les curateurs des augustales, ceux qui sont préposés à ce groupe des augustos, qui seraient alors en fonction, eh bien que ces gens-là banquettent dans le triclinium qui se trouve au-dessus du tombeau. Voilà donc encore une attestation pour une dépense de 100 sesterces et qu'ils consacrent ce jour-là 60 sesterces pour me faire un sacrifice, comme il dit. Mi facundo sacrificio. Donc c'est un très beau texte étudié par John Darmes, si vous voulez le lire de près dans le Journal of Roman Studies. Des fondations semblables sont connues ailleurs, même si elles n'évoquent pas la location d'une arène pour des jeux funéraires de lutteurs qui ont chaque année lieu sous la tombe. Et comme lors de la fête foraine, il y a des loueurs d'arènes qui viennent avec leurs lutteurs mettre pendant le banquet ou après le banquet plutôt, mettre en scène ces jeux funéraires annuels. On trouve d'autres fondations de ce type. Par exemple, à Mevania, en Ombrie, un individu lègue à son collège des centonarii, 1000 sesterces, dont le rendement doit servir chaque année, au jour des parentalia, fin février, à faire banqueter au moins 12 hommes auprès de son bûcher, rogus, tel est le terme qu'il emploie. Ce mot est justifié car les offrandes sont, pour le mort, sont vraisemblablement faites par terre, sur une tuile ou sur une mensa, un petit bûcher en somme, et non sur un autel, nous verrons. La fondation la funéraire la plus extravagante est celle qui figure sur une inscription de Langres, qui est donc française, et qui est conservée, hélas, par un manuscrit seulement. La description de la tombe et de tous les rites qui y sont liés sont si extraordinaires qu'elles passent encore souvent chez les spécialistes pour un faux, par exemple pour un exercice de juriste qui aurait consisté à inventer la fondation funéraire la plus fantastique qu'on puisse imaginer, mais qu'on ne trouve rarement dans la réalité. En tout cas, pour ce qui nous intéresse, le Lingon prescrit que tous ceux que j'ai affranchis de mon vivant ou par testament fasse annuellement et individuellement une offrande d'un sesterce. Donc, c'est intéressant. On offre un sesterce, une monnaie, pour le défunt. Vous verrez que ça peut avoir un sens. Que mon petit-fils Aquila et son héritier fournissent chaque année la somme, on ne sait pas combien, pour que chacun prépare des aliments et des boissons destinés à être exposés en dessous et sur le devant du tombeau qui est du domaine de l'Itavis, enfin l'Itavicrari dans le texte, on ne voit pas très bien de quoi il s'agit, qu'ils consomment là et qu'ils y demeurent jusqu'à ce qu'ils aient consommé l'ensemble. Donc, il décrit le banquet à être organisés près de la tombe, qu'il nomme à cet office des curateurs qui soient chargés chaque année de la chose et qu'ils aient, qui aient le pouvoir d'exiger d'eux cette somme. Je confie ce soin à Priscus Phoibus et Philadelphus Verus, ce sont deux de ses affranchis, qu'après ma mort, les curateurs nommés de la sorte accomplissent chaque année les cérémonies sur l'autel ci-dessus mentionné. Lui, il parle d'une ara, d'un autel, au calende d'avril, de mai, de juin, d'août et d'octobre. Donc tous les premiers de ces mois, il faut faire un service en son honneur. Ces inscriptions établissent donc toutes sans le moindre doute qu'après l'enterrement, un culte se déroulait à date régulière près des tombes, comme les historiens et les poètes nous l'apprennent. Dans quelle mesure l'archéologie confirme-t-elle cette donnée et comment ce culte se présentait-il? En examinant les nécropoles, on découvre d'abord qu'il y a partout un espace libre pour les rites funéraires, notamment pour les banquets de famille ou les invités, et les tombes elles-mêmes conservent parfois des traces cultuelles. La première, la plus visible, est formée par les tubes de libation. Restons à Aix-en-Provence. Parfois une amphore, dans cet enclos du 1er siècle de notre ère, est une communication avec la tombe par laquelle on fait des libations. Et tout cela est bien connu. Vous avez déjà rencontré cet exemple-ci à Riccione et en Émilie-Romagne. Vous constatez donc que l'amphore donne sur le dessus de l'ossuaire placé dans le tombeau. À Rimini, toujours en Émilie-Romagne, vous en avez un autre exemple. Puis cette tombe d'Aix, en Provence, datée également du 1er siècle, montre l'amphore, la stèle qui est placée juste derrière l'ossuaire, puis derrière la stèle, l'amphore qui conduit